s'il vous plaît, madame, sur votre avant-dernière diapositive. Enfin, j'ai pas vraiment compris.
Celle-là ?
Non, celle où vous dites que vous souhaiteriez que finalement, ce qu'on nous demande, c'est de répondre plus à l'esprit qu'à la lettre des programmes. Mm-hmm. Oui, il me semble que c'est tout à fait le cas. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. C'est pas de répondre à la lettre au programme, mais à l'esprit.
Vous voulez dire en tant qu'enseignant ?
Oui.
Alors,
c'est exactement ce qui nous est dit aujourd'hui par notre institution. Alors, c'est peut-être nouveau, mais c'est ce qui nous est demandé en tant que cadre.
Je pense que quelqu'un l'a signalé tout à l'heure et je suis d'accord. Je pense que ça dépend un petit peu de la personnalité des inspecteurs. Je me suis dit ce matin, en voyant celui qui est intervenu, que j'aurais beaucoup aimé l'avoir comme inspecteur.
Dans l'enseignement professionnel, parce que pour le coup, nous sommes de deux univers un petit peu différents. Enfin, il me semble que c'est quelque chose qui nous est, qui nous est dit clairement.
Oui.
Voilà. Oui. Il y a des programmes, il y a un guide d'accompagnement des programmes qui est plutôt vu comme une guidance pour nous, parce que par exemple pour l'enseignement professionnel, il va nous aider dans l'aménagement des espaces. C'est des choses qui vont même pouvoir évoluer. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret.
Oui.
En bac pro élec, on nous a proposé de faire travailler les élèves de seconde élec sur le bâtiment, sur des triptyques. Il se trouve, ils sont même dessinés, donc on les a tous construits dans nos établissements scolaires. Il se trouve que derrière les triptyques, évidemment, les élèves ne travaillent pas, ils ne peuvent pas être surveillés, ça nous pose des problèmes de gestion de classe et ça empêche les élèves de bien se concentrer. On a tous détruit nos triptyques, reconstruit d'autres espaces, et lorsque le guide d'accompagnement des programmes va être réécrit, probablement qu'il ne sera plus de cette façon, et c'est pas un souci avec notre institution que de faire les choses différemment.
Alors,
voilà. Alors par contre, évidemment, on ne peut pas avoir montrer de l'ignorance sur ce qui est écrit, d'accord ? Mais après, qu'il y ait une réflexion personnelle et des choix qui soient différents, dans l'enseignement professionnel, ce n'est pas un problème.
Alors, je ne suis pas sûre que la ligne de partage, ça soit enseignement général, enseignement professionnel. Je pense que ça dépend énormément de la personnalité des inspecteurs. Il se trouve que j'ai rencontré et j'ai eu affaire à plusieurs reprises, et jusqu'en fin de carrière d'ailleurs, à des inspecteurs qui avaient une vision extrêmement applicationniste. J'ai une collègue par exemple qui était maître de stage, qui était tuteur, et à qui on a enlevé ce rôle de tuteur parce que justement elle a fait comme moi, elle a passé un petit moment à traiter un sujet d'étude de la langue parce qu'elle avait l'impression qu'en le pulvérisant les élèves elle y a perdu son accréditation de voilà. On a des collègues qui ont été qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont étudié une nouvelle avec leurs élèves et voilà, pas de possibilité de justifier en disant de toute façon si je leur donne Les Misérables ils vont pas les lire, donc je préfère qu'ils lisent une nouvelle de Maupassant plutôt que c'est interdit.
Nous vraiment on nous demande d'avoir une application locale des programmes, d'abord parce que les entreprises, si vous voulez, au niveau des entreprises il va y avoir des problématiques locales. La gestion du réseau de distribution électrique, par exemple, dans une région, elle peut être différente. Les choix techniques vont être faits différemment. Ouais. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple concret. En mention complémentaire technicien monteur réseau, il y a au programme l'éolien. Mais il y a des régions où il n'y a pas d'éolien du tout en France. On le traite. Mais on ne va pas faire les TP qui sont préconisés. Par contre, effectivement, si on fait beaucoup de solaire photovoltaïque, on va insister sur ce point parce que on a quand même cette obligation. Alors, bien sûr, on va pas non plus ne pas traiter le point, mais on va le traiter complètement différemment. On va pouvoir faire varier même le niveau taxonomique.
Moi, j'aimerais j'aimerais que, à partir du moment où on peut se justifier, on peut dire pourquoi on a fait ce choix, j'aimerais qu'on puisse effectivement faire entendre ce choix. C'est pas toujours le cas.
D'accord. Pour réagir par rapport à ce que tu dis, bon, je suis en partie d'accord avec tout ce qui est un peu dit ici, c'est un consensus, mais je trouve que depuis la rénovation du bac pro en 2009, la liberté pédagogique, elle s'est amoindrie. Ouais. Honnêtement, moi j'enseigne depuis une vingtaine d'années en professionnel, et la liberté que j'avais avant sur le montage de mes cours, la façon dont j'ai abordé le programme, le référentiel, etc., et ce qu'on m'a imposé à partir de 2009, notamment avec le passage au centre d'intérêt. Chez nous, on bosse avec 10 centres d'intérêt en maintenance industrielle. Alors peut-être que dans chaque centre d'intérêt, on nous dit voilà, vous faites un peu comme vous voulez, mais en fin de compte, au final, c'est pas vrai. En fin de compte, au final, il y a des choses qui sont sorties et il y a des choses qui sont imposées plus ou moins implicitement et on est obligé de les suivre. Parce que sinon, à un moment donné, on a un petit rappel quoi, en disant, bah, écoutez, vous n'êtes pas tout à fait dans le cadre et ça serait bien de faire un peu comme tous les collègues. Voilà. Bah, en maintenance industrielle, pour la discipline où j'enseigne, c'est la maintenance industrielle, donc la maintenance des équipements industriels, donc branche STI. Et les centres d'intérêt, si vous voulez, c'est un groupe de travail qui a défini une dizaine de centres d'intérêt dans lequel on va retrouver tout le référentiel, donc qui part du référentiel des activités professionnelles. Et en fait, chaque centre d'intérêt donne accès à des capacités, compétences, savoirs, etc., qu'on met en place, en fait. Voilà. Ah, c'est une prescription académique, hein. Pas tout à fait national au départ. Parce que au départ, cette prescription-là, elle était académique, hein, parce que bon, l'Académie de Grenoble, pour ne pas la citer, elle était un peu pilote dans ce domaine-là, au niveau de la maintenance industrielle. Et ça a été... Voilà. Bah, à part le corps d'inspection, hein, c'est pas compliqué. Hein, ça tombe sur le corps d'inspection. Et après, c'est en fonction des individualités. Hein, donc voilà, chacun le fait passer comme il a envie de le faire passer, en fonction d'un tas de paramètres. Hein. Une volonté, un pilotage... Ouais. Ah, c'est l'intention, c'est d'uniformiser ce qui se fait dans l'académie, et à partir du moment où on a la même dotation machine dans tous les établissements au niveau de l'académie, bah, on considère qu'effectivement tous les programmes et la façon de les transmettre doivent être les mêmes pour tous les collègues des établissements, quoi. Parce que
et les examens sont en CCF.
Les examens sont en CCF. Ouais. Les exigences devraient être les mêmes. C'est pour ça que suite à cette rénovation du bac, on a fait un tas de séminaires, un tas de réunions pour avoir, on va dire un panel d'examens de CCF qui soient les mêmes à donner aux élèves plus ou moins dans la même date, de manière à ce qu'il y ait une équité sur l'ensemble des établissements, mais ce qui n'est pas le cas. Hein. Je peux vous assurer que l'équité pour les élèves au niveau des examens sur l'ensemble de l'Académie de Grenoble, pour pas la citer, à mon avis, on n'est pas dedans. Quoi. Donc la liberté pédagogique, moi je l'ai vu se réduire au fur et à mesure des années où j'ai pu enseigner. Je viens de l'Académie de Lorraine au départ, je faisais le même bac pro, je peux vous assurer que de la façon dont on bosse en Lorraine et de la façon dont on bosse à Grenoble, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, on pourrait les comparer. Mais j'avais le sentiment il y a quelques années d'avoir une liberté pédagogique qui me permettait, avec mes élèves, en fonction du tissu industriel, en fonction du lycée où je travaillais, des collègues, enfin d'un tas de paramètres, me permettait d'être plus à même d'amener le programme sur les 2 années, 3 années ou 4 années. Enfin, voilà, quoi.
Il y a une différence très nette, hein, c'est sûr, entre les disciplines qui sont en CCF et les disciplines qui sont avec un sujet national. En français, histoire, géographie, en première et en terminale, les élèves ont des épreuves qui sont des épreuves nationales. Donc là, forcément, il y a une prégnance du programme. Après, il y a une interprétation par chaque corps d'inspection. Hein, régionalement et d'un inspecteur à l'autre, ça peut changer, hein, d'une académie à l'autre. Mais il y a des sujets nationaux. Après, quand on est en CCF, c'est quand même, on a quand même une marge de manœuvre qui forcément est plus confortable. Moi, quand j'étais en CAP, il y a 2-3 ans que je n'ai plus de CAP, mais j'avais des CAP en menuiserie. Comme les profs de français et les profs d'histoire-géographie, c'était du CCF et c'est moi qui les construisais, on n'a pas cette pression de faire le programme, parce qu'on sait que de toute façon, on va les interroger sur quelque chose qu'on a fait ensemble. Ça peut être une différence entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, c'est que ce soit en CCF ou en épreuve nationale.
Et d'ailleurs, le CCF, ça devient quand même problématique. Hein. Enfin bon, on en discute souvent. Effectivement, il y a une liberté dans le CCF, de date à laquelle on fait passer, etc. Mais il n'y a pas que des avantages.
Je suis d'accord.
On aimerait, beaucoup de collègues aimeraient retrouver quelques épreuves ponctuelles en professionnel, ça ne ferait pas de mal. Et on voit bien le problème entre la certification intermédiaire, qui est le BEP chez nous, et le niveau bac pro, par exemple, en français histoire, le gouffre qu'il y a entre ce qu'on leur demande en certif intermédiaire BEP et ce qu'on leur demande en bac derrière, quoi. Et là, on voit bien que, tant au niveau des épreuves ponctuelles qu'au niveau des CCF, il y aura encore beaucoup de travail à faire. De toute façon, il y a toujours du travail à faire, ce qui est normal. Il faut faire évoluer le métier et les examens. Mais c'est vrai que ça a posé nombre de problèmes. Ça en pose encore, quoi.
Oui, tout à fait.
Non, peut-être pour prolonger ce qui a été dit, une des différences aussi, c'est que les programmes de l'enseignement professionnel n'ont pas été revus au passage au bac pro 3 ans. Donc nous, ce qu'on avait à faire passer en 4 ans, on le fait passer en 3 ans maintenant. Et on l'a bien compris ce matin, donc c'est pour ça aussi, et c'est pour répondre à cette inquiétude, qu'on n'a plus aussi la même marge de manœuvre. Ce que vous avez entendu ce matin, on l'a dit à plusieurs reprises, on avait du temps avant. Bon, mais maintenant on l'a plus. Donc, et aussi peut-être un petit peu pour nous aider, hein, il y a eu des prescriptions académiques qui ont été faites. Mais aussi parce qu'il y avait une forte demande de se dire, mais comment est-ce qu'on va réussir à faire passer ce qu'on faisait passer avant 4 ans en 3. Donc, bon, ça a été imposé, on sait comment, on connaît l'historique. Donc, à un moment donné, il fallait faire en sorte que ça marche. Les programmes, petit à petit, sont en cours de réécriture. De toute manière, on sait qu'ils vont être adaptés. Hein, parce qu'on le voit maintenant sur les épreuves d'examen, puisque cette année, on a eu la première promotion où on a une lisibilité complète sur les examens, en particulier sur les épreuves écrites nationales, que l'on a aussi sur l'enseignement technique. Hein, tout n'est pas en CCF pour le bac pro. Oui. Et on a eu la première promo où on n'avait plus le bourlet. Ben, les résultats scolaires ont été ce qu'ils ont été quand on a fait les corrections de copies. Donc on a bien vu que les élèves n'avaient pas acquis toutes ces compétences qu'on espérait qu'ils pourraient acquérir en 3 ans. Voilà. À cause en particulier, une chose très importante, c'est qu'on pensait qu'on allait gagner sur les stages. Et tout ce matin, on nous a expliqué toute la grosse difficulté de valider les compétences pendant les stages. Voilà.
Qui ne sont plus d'ailleurs des stages, mais des
période de formation. Voilà, et on a expliqué toute cette difficulté. On n'arrive pas suffisamment à le valoriser pour plein de raisons.
Oui, voilà, bien sûr.
Mais... ce matin, ils ne nous l'ont pas dit, mais on a même du mal à aller dans certaines entreprises. Parce que les entreprises ont peur. Ils nous reçoivent avant de partir sur le chantier. Ils ont peur de nous montrer les conditions dans lesquelles ils travaillent, parce qu'ils savent qu'ils sont borderline au niveau de la sécurité.
Bon, ben voilà, donc, là aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la prescription ne prend son sens que sur le terrain. Et théoriquement, c'est bien de dire que les périodes de formation en entreprise, ce ne sont pas des périodes de stage ou d'observation, mais que le jeune y apprend vraiment certains éléments du programme que du coup le professeur gagne sur son enseignement. Dans la théorie, c'est parfait. Après, dans la pratique, je sais bien, enfin moi, pas forcément dans votre domaine, mais bon, j'étais professeur principal en système électronique numérique longtemps, j'en ai assez discuté avec les collègues. Je sais très bien qu'ils ne font pas forcément sur le terrain une partie du programme et...
Le programme que vous avez en français, c'est pour français, histoire, géographie, ou il comprend aussi, puisqu'il a été conçu pour, en regard d'un certain nombre d'heures, l'enseignement général lié à la spécialité. Il y a la spécialité qui correspond aussi à un certain nombre d'heures.
Oui.
Alors, il a été écrit en excluant ces heures d'enseignement général lié à la spécialité.
Normalement, oui. Normalement. Il y a 4 heures par semaine pour faire français. Donc 3 thèmes dans l'année, avec 3 problématiques par thème. Histoire, vous avez vu, 5 thèmes. Géographie, autant. Et instruction civique. Donc on a tout ça à faire en 4 heures par semaine. Alors effectivement, la partie d'enseignement général... pour les services de la professionnalisation, normalement, il n'y a pas de programme, puisque c'est localement que les enseignants doivent travailler ensemble pour voir en quoi ils peuvent mettre leurs compétences d'enseignants de français ou de maths ou au service de la formation globale de l'élève.
Et c'est assez surprenant, mais en fait, dans ce domaine-là, on n'a pas de prescription presque. Puisque les inspecteurs de français pourraient très bien, par filière, écrire des prescriptions sur tel ou tel diplôme. Parce que, mais on n'en a pas.
Parce que théoriquement, on s'adapte à participer à un projet, c'est apprendre à l'élève à faire son PowerPoint pour présenter son oral de sa soutenance de stage. Enfin voilà, ça peut être des tas de choses.
En tous les cas, dans votre discipline, vous avez quand même bien du courage, parce que bon, enseigner le français, l'histoire, l'éducation civique, c'est quand même problématique. Et moi, dans mon lycée, j'ai deux collègues français, histoire. On voit bien la problématique qu'il y a à la répartition horaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bien en français, plus ou moins bien en histoire, parce que je suis désolé, être bon dans 2 ou 3 disciplines, voilà, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être aussi une solide préparation, une solide formation. Et là, il faut répartir en fonction, hein, pas des affinités, mais en tous les cas des compétences de chaque collègue. Quand il faut faire la DGH, on rigole moins, quoi.
Bon, en même temps, faut pas se le cacher non plus. Hein, c'est le plaisir du métier. Moi, ce qui me concerne, c'est pour ça que j'ai choisi. Souvent, je me retrouvais en tant que formatrice en face d'enseignants qui avaient réussi le CAPES et le PLP et qui me disaient, je sais pas quoi choisir. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je me disais, mais je peux rien te conseiller. Moi, c'est à toi de voir. Oui, mais qu'est-ce que tu me dirais? Alors, j'avais pris l'habitude de répondre par cette boutade. Si ce qui t'intéresse le plus, c'est ta matière, valide le CAPES. t'intéresse. Si ce qui t'intéresse le plus, c'est les élèves, valide le PLP. Alors, je dis pas par là que les professeurs qui enseignent en lycée ou en collège, ils aiment pas les élèves. Hein. C'est pas ce que je veux dire.
Faites attention, vous êtes enregistré, là.
Oui. Mais je crains plus rien, je crains plus rien. Mais, mais par contre, c'est vrai qu'en lycée professionnel, moi, c'est ce qui m'a, c'est pour ça que ça me plaisait, hein. C'est que, il y a un vrai challenge. Parce que au début de l'année, c'est clair que les gamins, ils disent pratiquement tous qu'ils n'aiment pas le français et l'histoire-géographie, quoi. Donc, à la fin de l'année, tous ceux qui ont changé d'avis, ben, c'est toujours ça de pris. Et c'est ça le plaisir, de chercher les détours.
Oui, moi je constate en fait que selon la filière, selon la discipline, on a une vision très très différente de la liberté pédagogique. Moi je suis professionnel en bac GA, il y a eu donc une rénovation du diplôme et j'ai jamais senti autant de liberté qu'aujourd'hui. Hein. Gestion administration. Voilà. Ah oui, tout a été réécrit. Voilà. Mais c'est pas tellement ça, c'est que mettre en œuvre un référentiel, c'est le moment de liberté, en fait. C'est le moment qui crée la liberté. Hein, c'est-à-dire que je suis sûr que dans 2-3 ans, il y aura beaucoup moins de liberté, en fait. Hein. Si, bah forcément, parce qu'il y a des choses qui vont être calées et on va dire, bah, comme ça, ça a l'air de marcher, il faut faire à peu près comme ça. Quoi. Ah, bah, ça, c'est un autre aspect. Non, mais c'est simplement un constat. On a des situations différentes, évidentes, quoi. Hein. C'est vrai que moi, je ne pensais pas qu'en français, on était aussi cadré. Je pensais au contraire que c'était quelque chose de relativement libre.
Moi, je me plains pas du programme en lui-même, parce que les thématiques, les problématiques, c'est très intéressant. Par contre, après, ça dépend vraiment de la façon dont c'est géré par les inspecteurs. Bon, c'est vrai qu'en histoire-géographie, c'est infaisable. De toute façon, les 12 thèmes histoire, géo, instruction civique en 2 heures par semaine, c'est infaisable. Donc après, à nous de gérer au mieux et de hiérarchiser. Mais en nous laissant une liberté, ce programme serait très intéressant.
Et ce qui pourrait être intéressant peut-être d'être ajouté, c'est qu'au niveau de l'économie droit maintenant en enseignement professionnel tertiaire, on nous suggère d'aller voir les collègues français, histoire, géo et puis PSE pour mettre à plat les référentiels et voir comment finalement on va se répartir un peu la tâche de manière à ce qu'on soit pas tous à approfondir les mêmes choses à notre façon et que justement on gagne du temps pour passer de 4 à 3 ans sans devenir fou.
Les collègues ce matin qui parlaient des conditions de la sécurité, des textes sur la sécurité, des pictogrammes sur les boîtes de peinture, etc. Normalement, le prof de PSE devrait drôlement leur filer un sacré coup de main.
Et il le fait, mais en fait, chacun dans son coin. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment... Et là, c'est temps de créer le collectif, parce que je crois que peut pas... Chaque prof dans sa salle ne peut pas le faire s'il n'y a pas quelqu'un qui institutionnalise. C'est Yves Clos qui dit que le collectif doit être institutionnalisé aussi pour que ça marche. Je crois que là, il y a un rôle des chefs d'établissement et des chefs d'en haut, voilà, officialisé et repéré, qu'il y a un repérage du collectif, que ce soit plus entre deux portes ou dans la salle des profs en se croisant.
Après, ce qui manque, effectivement, c'est le temps pour...
Une organisation qui soit vraiment dans le sens du collectif.
Bien sûr.
Et là... Peut-être qu'on arrive, justement, on a finalement une zone de liberté, là. Puisque si, finalement, dans le collectif, on se répartit un peu plus les thèmes, et puis en fonction des affinités, et puis de ce que chacun aime faire, il y aura peut-être aussi quelque chose d'autre qui peut évoluer.
Oui, mais je le disais ce matin, je pense que il faudrait que, dès la formation initiale, ce genre de réflexe soit pris. C'est-à-dire que, par exemple, entre formation en enseignement général et en enseignement professionnel, il y a un module, par exemple, à l'ESPE, qui nous apprenne à travailler ensemble.
C'est une réflexion personnelle, parce que j'aurais plein de questions, mais j'aimerais bien qu'on prenne une pause pour pouvoir retravailler après. J'ai l'impression que les programmes sont rédigés de telle sorte qu'ils, sous forme de thème ou sous forme, qu'ils sont plus facilement, on peut plus facilement échanger entre disciplines. Ils sont plus ouverts. C'est des choses qui sont communes à différentes disciplines. plus transversal.
Il y a la possibilité de faire du transversal partout.
Voilà. Est-ce que c'est juste un sentiment quand je vous, enfin une perception quand je vous écoute?
Non.
Ou est-ce que ça serait une tendance à la rédaction des programmes, de façon moins moins technique, mais plus.
Il y a un point d'ailleurs dont j'ai peu parlé.
Plus large, plus global, c'est pour permettre aux enseignants justement de travailler d'enseignants de disciplines différentes. Travailler ensemble sur des thèmes particuliers.
Bien sûr. Il y a des points que j'ai peu abordés, mais par exemple, c'est l'histoire de l'art, hein. L'histoire de l'art et les ce qu'on appelle les TUIC maintenant, hein, les techniques usuelles d'information et de communication. Mais j'aurais pu en parler. Le programme de Français Histoire Géographie accorde, le nouveau programme, une grande place à l'histoire de l'art et là, on peut vraiment travailler avec aussi les professeurs d'art appliqué ou,
sur la tendance, on sait pas trop d'où elle vient, mais finalement, ça renvoie aussi au PPCP, parce que finalement, est-ce que la tendance, elle a pas été ouverte avec le PPCP, qui aura tendance, alors qu'avant c'était à la marge, qui aura tendance finalement à s'immiscer dans les pratiques comme étant plus une règle, en gardant la pratique
elle-même. Oui, il réapparaît sous une autre forme, en fait. Hein.
C'est des enjeux de société, hein, et c'est des choix ministériels. Donc effectivement, si là il y a une tendance à faire en sorte qu'il y ait plus de transversal, ça se comprend qu'il soit rédigé de telle sorte que tout le monde puisse s'en emparer, enfin tous les enseignants puissent s'en emparer. Pour, j'allais dire, abattre les cloisons entre les disciplines.
J'ai l'impression que la transversalité, elle existait plus avant la réforme, en fait, des programmes. Parce que, je prends un exemple, par exemple, des référentiels du BEP-CSS, carrière sanitaire et sociale, où il y avait des compétences transversales, s'informer, décoder l'information, etc., qui ont complètement disparu des nouveaux référentiels, dans notre nouveau référentiel du Bac Pro SSP. Donc, il y a les tâches, mais les compétences transversales, elles apparaissent plus telle qu'elle, en fait, les capacités transversales. Il y a directement les compétences associées au savoir-faire disciplinaire, en fait. Et du coup, je me dis quelque part, avec la réforme, c'est marrant, il y a cette volonté peut-être de transversalité, mais n'empêche que sur les référentiels des profs d'enseignement professionnel, ça n'apparaît plus.
Oui, mais effectivement, c'est diffus. Parce que, comme je le disais, on ne nous précise pas comment apprendre à apprendre, c'est notre boulot. On ne nous dit pas comment faire. Et en fait, ça, c'est quelque chose de transversal. Là, on pourrait le décliner dans toutes les matières. Hein. Comment s'organiser, comment rédiger, comment s'exprimer à l'oral, comment apprendre.